Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Jusqu'à 9h, c'est le 7. Le 7.
88.3,
c'est fac. Ça part ici.
On est de retour dans le 7. Il est 7h16 actuellement. Donc, je suis en direct avec mon invité du jour, donc Julie Gagné. Bonjour, Madame Gagné.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de votre prochain dossier donc, qui porte sur l'accessibilité financière aux études. Dossier qui sera d'ailleurs mis en avant le 26 octobre prochain. Pour débuter un petit peu, pouvez-vous nous présenter ce qu'est ce dossier sur l'accessibilité financière et sur quoi il porte exactement?
Oui, absolument. C'est ça. À l'ORES, en fait, on est un lieu de référence, vraiment un lieu de convergence, je dirais, pour l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la réussite étudiante en enseignement supérieur de façon large. Donc, on essaie de sensibiliser aux défis de la réussite, de l'accessibilité aux études supérieures, de la persévérance pour augmenter évidemment la diplomation. Et puis donc, cette année, on se concentre sur l'accessibilité financière. Donc, de quelle façon, entre autres, la précarité financière des étudiants et des étudiantes va avoir un impact sur leur réussite. Donc, on essaie de voir ça comme un tour d'horizon complet. Et puis, évidemment, pourquoi on a choisi ça cette année? Je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est un enjeu très actuel là, avec la hausse du coût de la vie, l'inflation, la crise du logement dont on entend beaucoup parler. Donc, tous ces éléments-là ont évidemment un impact sur l'ensemble de la population, mais en particulier sur la population étudiante, puisqu'elle est déjà vulnérable. Puis parmi la population étudiante, il y a certains groupes de population, évidemment, celles qui vivent des inégalités sociales et économiques, qui vont avoir encore plus de précarité financière. Donc, on essaie, qui vont avoir un impact justement sur leur réussite. Donc, c'est ça qu'on essaie de mettre au jour puis de mettre en lumière dans notre dossier.
Et justement, avec tout ça, est-ce qu'il y a des objectifs principaux qui découlent un peu de ce dossier? Et est-ce que vous avez peut-être une manière d'atteindre ces objectifs-là par la suite?
Oui, en fait, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble de la population, en particulier les gens qui sont déjà en soutien aux étudiants, aux étudiantes dans nos milieux d'enseignement au collégial et à l'université. Parce que évidemment, on prend souvent pour un fait la population étudiante, quand on est aux études, quand on est jeune, on a moins de moyens, puis ça vient un peu avec le fait d'être un étudiant. Mais je pense que qu'on veut mettre en lumière, c'est qu'il y a plusieurs leviers qui existent et qui permettraient d'améliorer l'expérience étudiante, en fait, puis de minimiser les effets de cette précarité financière-là. Donc, c'est ça qu'on veut mettre en évidence. Le fait que, premièrement, qu'il y a une vraie précarité financière qui est exacerbée présentement par l'état actuel de la situation, mais aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc c'est ça qu'on veut mettre en lumière.
Vous avez parlé un petit peu donc de la hausse du coût de la vie, évidemment. Donc, il y a l'inflation qu'on connaît depuis un petit moment maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent venir impacter l'accessibilité financière? Est-ce que, par exemple, l'habitation peut venir toucher cet enjeu-là?
Effectivement, c'est un très bon point. Le logement, évidemment, là, on entend beaucoup parler de la crise du logement. Pour vous donner un exemple, quand on parle de logement abordable, on parle d'un logement qui coûte en général maximum 30% du revenu. Ce qu'on sait, c'est que au sein de la population étudiante, c'est 2/3 de la population étudiante qui consacre plus de 30% de son revenu au logement. Donc, c'est quand même important. Ça veut dire que pour 2/3 de la population étudiante, le logement est vraiment un élément super important puis en fait disproportionné là, de leur budget. Donc, c'est un élément sur lequel on peut jouer. On traite aussi dans le dossier de sécurité alimentaire. Donc, évidemment, l'insécurité alimentaire, elle est vécue par plein de monde dans la population, mais en particulier aussi par la population étudiante. Puis on sait que ça aussi, ça a un impact direct là, sur la réussite étudiante. Puis que, par exemple, certaines études avancent que l'insécurité alimentaire, les gens qui vivent, les étudiants et les étudiantes qui vivent l'insécurité alimentaire vont avoir deux fois moins de chances de diplômer que les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler. Puis, là aussi, il y a des leviers qui nous permettent de le faire.
Oui, justement, vous parlez de levier. Est-ce que, par exemple, oui. les politiques de soutien financier comme les bourses, les prêts, est-ce qu'elles peuvent contribuer à améliorer l'accessibilité financière des études ou est-ce que c'est devenu un peu un modèle désuet, il faudrait aller vers autre chose ou vraiment, alors non, elles peuvent véritablement aider, en fait?
Ben, oui, c'est une bonne question. Les programmes d'aide financière aux études, ils sont évidemment essentiels, nécessaires. On a la chance, je dirais, au Québec, d'avoir un programme d'aide financière aux études qui est basé, en fait, c'est un programme rétributif, donc qui est basé sur la prémisse de base, l'objectif, c'est d'aider les gens qui ont plus de difficultés pour augmenter l'accessibilité financière, l'accessibilité aux études. Cela dit, il y a toujours place à l'amélioration, évidemment, là. Donc, je pense qu'on traite, entre autres, dans le dossier de plusieurs pistes pour actualiser ces programmes d'aide financière aux études-là, là, entre autres le programme gouvernemental, en tenant compte peut-être davantage ou en tout cas de façon différente de la nouvelle, des nouveaux profils des étudiants hein, qui sont beaucoup plus diversifiés que par le passé, puis qui ont des nouveaux défis, évidemment. Mais outre le programme d'aide financière aux études, aussi de regarder l'ensemble des mécanismes qu'on a pour l'aide financière, donc c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, d'autres types de bourses, les bourses à la recherche, par exemple, mais aussi les bourses d'accessibilité, les bourses de persévérance, les bourses pour certains types de profils étudiants, qu'on regarde l'ensemble de ces mécanismes-là de façon avec une approche plus structurante, c'est-à-dire en complémentarité les uns avec les autres, puis avec une réelle intention, justement, que l'ensemble de ces mécanismes-là contribuent à l'accessibilité financière aux études.
Avec les recherches que vous avez menées un petit peu sur ce dossier, est-ce qu'il y a des données en particulier qui vous ont choqué donc sur l'accessibilité financière? Et est-ce que, quelque part, ça pourrait un petit peu réveiller la communauté étudiante sur ce sujet-là, mais pas seulement aussi, est-ce que ça pourrait venir toucher le gouvernement et prendre conscience, en fait, de cet enjeu-là, des problèmes d'accessibilité financière?
Oui, ben, je vous parlais tout à l'heure justement que la précarité financière avait un vrai impact sur la réussite. Donc, peut-être pour vous donner quelques exemples, d'abord, ben, c'est sûr que ça compromet nécessairement l'accessibilité aux études. C'est-à-dire, au moment où on est en train de choisir ou de décider est-ce qu'on va aller aux études supérieures ou non, eh ben, les questions financières, évidemment, entrent en ligne de compte sur aussi le sentiment d'avoir la capacité d'aller étudier ou non selon son profil, mais aussi selon sa capacité financière, bien, ça a un impact. Donc, le fait d'être capable de se projeter dans l'avenir puis de se dire, ben oui, j'aurai les moyens, donc ça a un impact. Ensuite, la persévérance, évidemment, ça a un impact sur la persévérance. Puis là, ben il y a plusieurs données. On sait, par exemple, on parle beaucoup de santé mentale hein, depuis les dernières années. Puis évidemment, le stress financier pour les gens qui sont en précarité financière, ben c'est un des stress les plus importants quand on parle de santé mentale. Donc, il y a des études qui démontrent qu'il y a au moins 20% de la population étudiante qui ressent beaucoup de stress en lien avec sa situation financière. C'est quand même pas banal. On sait aussi que presque la moitié de la population étudiante, donc de ceux qui avaient été sondés là, dans les études qu'on a regardées, donc près de la moitié qui disent que les enjeux financiers ont un impact négatif sur leurs études. Donc, c'est quand même une donnée importante que quand on parle d'un étudiant sur deux. Puis, il y en a même près du quart qui vont se dire que ça a un impact et que ça va les décourager à poursuivre un autre projet d'études. Donc, on voit bien que, tu sais, les étudiants, les étudiantes qui ont des difficultés financières, ben ça a un impact sur leur santé mentale, sur leur niveau de stress. Ça va avoir nécessairement un impact sur leur réussite, sur leur capacité à choisir de d'étudier puis ensuite à poursuivre leurs études. Puis je donnerais peut-être une dernière donnée aussi. On parle beaucoup, on sait que de plus en plus d'étudiants travaillent, évidemment, en même temps qu'ils étudient, puis on sait l'impact que ça peut avoir. Peut-être un peu, en fait, les études nous démontrent que c'est pas nécessairement dans tous les cas négatif de travailler pendant les études. Par exemple, quand on travaille quand le travail que l'on fait a un lien avec nos études, ben ça peut être une source de motivation, ça peut être une source de persévérance dans les études. Donc, c'est pas mauvais en soi. Par contre, le nombre d'heures a un impact. Donc, on sait que entre 15 et jusqu'à 25 heures par semaine, ça peut être positif, mais qu'après ça, c'est dans tous les cas, ça a un impact négatif sur la réussite. Puis là, je vous donne un intervalle, 15 à 25 heures, c'est évidemment très large là, comme donnée, mais ça dépend beaucoup du profil. Donc, évidemment, c'est pas la même situation si on a... Puis on a 21 ans, puis qu'on habite encore chez nos parents, puis si on en a 29, puis qu'on a deux enfants à charge ou qu'on a un handicap, par exemple, ben dans ce cas-là, évidemment, la surcharge, elle augmente, et puis le nombre d'heures doit diminuer si on veut pas que ça ait un impact négatif. Donc ça démontre un peu qu'il y a vraiment un impact concret, puis des choses sur lesquelles on peut travailler.
Donc, écoutez, merci beaucoup, Madame Gagné. C'était très intéressant de parler de ce dossier qui est vraiment pertinent et en plus fortement d'actualité. Donc, je pense que tout ce qu'on a un petit peu parlé, ça va sensibiliser la communauté étudiante là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter de tout ça très, très tôt ce matin avec moi.
Ah, ça me fait plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, on vous invite à aller voir, lire notre dossier. On a plusieurs pistes d'action, puis on a des pratiques inspirantes aussi, des initiatives de certaines associations étudiantes qui peuvent montrer comment on peut travailler justement dans la bonne direction puis aider les étudiants qui ont plus de difficultés financières. Donc, je vous invite à aller lire ça.
Donc, c'est certain, on invite la communauté étudiante à aller voir tout ça. Donc, merci beaucoup, Mme Gagné. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Donc, quant à nous, on va se laisser un petit peu en musique et après cela, on va parler un petit peu d'actualité de Sherbrooke, puis l'actualité internationale, avant de terminer donc notre émission par un petit récapitulatif des activités et événements qui vont avoir lieu sur le campus de Sherbrooke. Donc, on se laisse quelques minutes en musique et je reviens juste après pour discuter de tout ça.